Les pieds sur terre, Sonia Kronlund.
Personne n'ose provoquer l'avenir. Faudrait être fou pour provoquer l'avenir.
Le redoublement à l'école, c'est un peu comme la semaine de 4 ou 5 jours, le débat autour de la notation, le lundi de Pentecôte ou la circulation sur les voies sur berge. Ça va, ça vient, ça remplit des salles de chercheurs pour des colloques de haut vol et les pages rebondent des journaux. C'est interdit, puis c'est réintroduit. Dans les années 80 et 90, le redoublement est très répandu dans les écoles. Les profs en menacent les élèves à la moindre mauvaise note, les parents s'en servent comme d'un épouvantail pour faire travailler leur progéniture. Mais quand ça arrive, et surtout quand ça arrive plusieurs fois dans une scolarité, le redoublement écorne sérieusement la confiance des élèves en eux-mêmes, au risque de les humilier carrément. Les redoublants sont des élèves à part, marqués, c'est la tâche. En novembre 2014, le gouvernement Hollande décide alors de bannir le redoublement en primaire et en maternelle. Il est décrété inefficace, inéquitable, pénalisant et onéreux. Il ne reste possible qu'en cas de période importante de rupture des apprentissages scolaires. Revirement en 2017, le nouveau ministre de l'Éducation, Jean-Michel Blanquer, décide de réautoriser le redoublement en primaire, comme dans le second degré, mais pas en maternelle. Il y a quelque chose d'absurde à laisser passer de classe en classe des élèves accumulant des retards, déclare le ministre dans Le Parisien, qui croit apparemment dans les pouvoirs magiques de la pratique. Dans les faits, la France reste le pays qui fait le plus redoubler. 22% des élèves de 15 ans disaient en 2015 avoir redoublé au moins une fois au cours de leur scolarité. À l'inverse, des pays tels que la Suède ou la Finlande ont moins de 4% de redoublants, tandis qu'en Norvège, personne ne redouble jamais. On croit dans les vertus du soutien scolaire, de l'accompagnement personnalisé des élèves en difficulté, et des assistants sont embauchés dans les établissements scolaires à cet effet. Aujourd'hui donc jusqu'à 14h dans Les Pieds sur Terre sur France Culture, ce sont des histoires de redoublants et de redoublements et de privés de redoublements, comment ils l'ont vécu, comment ils l'ont assumé ou pas et ce qu'ils ont fait après. Un reportage de Karine Lelouette.
En réalité, on ne sait jamais ce qui se passe, on sait simplement ce qu'on veut qu'il se passe. C'est comme ça que les choses arrivent.
Salut Julien.
Bonjour.
Ah bah, ça fait un petit peu de temps.
Comme je suis du mois de janvier, il se posait une question très délicate pour savoir si je pouvais arriver directement à 6 ans et demi, donc ou 7 ans et demi en CP. Et la maîtresse a demandé à rencontrer ma mère. Et donc du coup après l'école je suis resté et là la maîtresse a dit à ma mère que je refusais d'écrire au tableau et que j'étais trop immature pour aller en CP. Et je me souviens vraiment parce que du coup, j'entends cette discussion à laquelle je semble un peu étranger parce que j'ai du mal à comprendre qu'il s'agit vraiment de moi. Alors du coup, je vais au tableau, je prends la craie, je montre, je regarde comme ça, mais je peux écrire au tableau, il n'y a vraiment pas de difficulté, c'est pas psychomoteur, j'ai cette capacité. Et la maîtresse dit oui, mais devant les autres, il ne veut pas. Alors je ne sais pas pourquoi ça s'est passé comme ça. Et ben, je suis resté une année de plus en maternelle, et là vraiment c'était pas possible parce que j'étais vraiment plus grand que tout le monde, parce que ça compte beaucoup dans ces âges-là. Et puis je passais mes journées à faire du dessin, du collage, vraiment je m'ennuyais, mais comme un rat mort, c'était horrible. Tant et si bien que mes parents m'ont plus envoyé cette dernière année, je restais à la maison plusieurs jours par semaine. Je me souviens, je sais pas si c'est lié, mais j'ai fait cette période-là deux maladies psychosomatiques. La première maladie très bizarre que j'ai eue, donc c'était dans cette année maternelle, je pouvais plus baisser la tête. Et puis l'autre, je perdais mes cheveux derrière les oreilles. Alors je pense que même si je me souviens pas avoir été gêné par le fait de ne pas aller en CEP, d'avoir manqué un truc, je pense qu'il s'est quand même passé quelque chose à l'intérieur où j'étais pas satisfait de la situation et j'arrivais pas à l'exprimer. Peut-être c'est ça la maladie psychosomatique. Une fois que j'ai pu passer cette case, ça s'est très bien passé.
À quel moment ça a recommencé à...
Pour remettre bien les choses dans le bon ordre, c'est que mon frère avait des talents de chanteur. Il était un très très grand chanteur. Il y avait une genre de chorale là où on était dans le privé. Et il se trouvait qu'il existait une autre école privée qui avait un programme pilote pour la chorale. Et donc du coup, mon frère, mes parents ont voulu le mettre... du coup, ça leur coûtait un peu moins cher de me mettre aussi ici. D'ailleurs, j'étais pas dans ce programme pilote, mais du coup, j'ai quand même été dans cet établissement privé en sixième. Il y avait une heure de bus, j'étais en petit, je rentrais fatigué à la maison. Et en fait, il y avait vraiment une ambiance très très bizarre, anonyme. On nous appelait par notre nom de famille, il n'y avait que des garçons. Pas de rapport tellement humain, même entre camarades. Bon. Les résultats étaient annoncés devant l'ensemble de tout le monde. Et donc du coup, on est dans une église immense. Il y avait peut-être 300 personnes. Ils appelaient votre nom et puis... Il y avait toujours un petit commentaire sec. Évidemment, j'avais jamais de très bons commentaires. Mais je me souviens de cette une sorte d'inquiétude par rapport à ce moment-là. Je pense que si j'avais été dans l'enseignement public, je pense que j'aurais pas redoublé cette année.
Est-ce que tu te souviens le moment où on t'a parlé de redoublement, justement, en sixième ?
Je me souviens très bien, parce que ma mère avait pris un rendez-vous. C'est la seule fois, au fait, où elle est venue à l'école. Hein, et elle a pris un rendez-vous avec le père, qui était chargé de mon niveau. Et en fait...
Le prêtre, quoi, c'est
le
ça ?
Le prêtre, c'est ça, ouais. Et là, comme j'allais à l'étude après, il faisait noir et j'ai vu ma mère arriver au loin dans cette immense cour. Et puis on est allé voir tout de suite le bureau du père. Et puis je suis resté devant, écarté de la discussion. Et puis après, ma mère m'a dit, mais non, j'ai su le verdict. Non, c'est finalement, t'es pas assez mature. Verdict auquel, évidemment, mes parents ont beaucoup cru, puisque depuis la maternelle, j'avais ce fameux problème de maturité. Mes parents ont quand même une prise de conscience après ce redoublement, parce que du coup ils m'ont sorti cet établissement qui ne me correspondait absolument pas, et j'ai changé d'établissement toujours pour le privé, je suis allé ailleurs, voilà, redoublé ailleurs.
Et du coup tu arrives dans ce nouvel établissement, là moi je te croise, non ?
C'est ça. J'avais vraiment un soulagement, parce que c'était vraiment à échelle humaine. J'étais vraiment intéressé par les cours, ça m'a beaucoup plu. J'étais pas très bon, mais le problème c'était que du coup j'avais quand même 2 ans de différence. Alors, la nature est bien faite, et bon, je faisais pas 1m80 en 6e, ni en ayant beaucoup de barbe, donc d'extérieur, peut-être j'étais pas discernable par rapport aux autres, pas stigmatisation, je portais pas de signe extérieur de ce redoublement. Mais il y avait quelque chose qui me séparait très nettement des autres, ça c'est une macule, presque une macule, une tache sur le fait que j'étais un redoublant. Mais en tout cas, en sixième, j'ai pas été maltraité, non. J'étais même protégé. Je me souviens de professeur de mathématiques qui était extrêmement bienveillant. Je me souviens beaucoup de bienveillance, en général. Mais j'étais quand même en retenue tous les mercredis. Depuis peut-être la sixième jusqu'à la fin de la troisième. Je me souviens avoir été plusieurs fois tout seul. Ils ouvraient même la section de retenue pour moi. J'étais avec le directeur. Il savait pas quoi faire de moi, le pauvre. J'avais des dissertations parfois. Je venais tous les mercredis. J'étais en retenue tous les mercredis. C'est pour ça que j'ai fini par avoir un avertissement... qui m'a fermé les portes, en fait, de l'éducation nationale. Voilà. J'avais l'impression que c'était quand même... Je devais une partie de mon redoublement au privé. Et du coup, j'ai postulé pour aller dans tous les établissements publics de la région. Et j'ai reçu un courrier comme quoi, en fait, avec mon dossier disciplinaire, c'était pas possible. Et donc, du coup, ils m'ont renvoyé vers le privé. Pas de choix. Moi, j'ai redoublé cette première année, 12 secondes. Mes parents, en fait, à ce moment-là, ils avaient un peu abandonné. La thèse officielle, c'était que j'avais pas les capacités pour aller dans le secondaire. Et donc, du coup, j'avais un avenir de chaudronnier, plombier chaudronnier, plombier zingueur, c'était ça un peu le... En fait, j'avais pas envisagé que si je redoublais, ça pouvait conduire à autre chose que... Du coup, en fait, on pouvait faire un genre de recours. C'est les parents qui le demandent en général, mais les miens ne voulaient pas le demander ce recours. Mon dossier avait été regardé, mais c'était pas suffisant. Là encore, quand j'ai refait cette année, j'ai vraiment... Enfin, c'était pas très stimulant intellectuellement, parce que du coup, c'était vraiment le même programme, les mêmes professeurs. En fait, j'ai vraiment eu l'impression de perdre mon temps. Puis la première s'est très bien passée, je trouvais vraiment que c'était très intéressant. Plus ça allait dans le secondaire, plus ça allait enfin intéressant. Et comme c'était des choses nouvelles, voilà. Je me suis vraiment épanoui intellectuellement.
Donc après, t'as eu le bac ?
Ma mère a pleuré, elle pensait que je l'aurais pas. Ouais. Ils ont pas le bac, ni l'un ni l'autre, ils ont pas fait d'études. Et que je puisse avoir le bac, mais vraiment, c'était un truc très très important pour eux.
Attends, t'avais quel âge quand t'as eu le bac ?
Je peux pas le dire, j'avais plus de 20 ans. J'étais vraiment vieux. Et bon, du coup, j'étais à la fac un peu comme ça. J'ai fait un cursus en histoire, voilà. Qui a bien marché.
Jusqu'à quand ?
Jusqu'à la maîtrise. Et puis là, la maîtrise, en fait, c'était quand même très compliqué. À ce moment-là, c'était, la condition de l'étudiant était difficile, alors j'ai redoublé ma maîtrise.
À quel moment t'es arrivé sur le marché du travail, finalement, vraiment? Enfin, je veux dire, t'as fini tes études.
Ben, en fait, il se trouve que c'est toujours un job d'étudiant que j'occupe, un job d'étudiant qui est un peu mal tourné, puisque ça fait 15 ans maintenant, mais c'est voilà, c'est toujours...
C'est quoi ce travail?
C'est pion. C'est pion. Parce qu'il faudra quand même que je me trouve un vrai travail un jour quand même. Je sais, j'ai quand même plus de 40 ans aujourd'hui. Il faut quand même que je... L'âge de la maturité, enfin, peut-être.
Alors, je m'appelle Rebecca Duvillier. Je suis née en Égypte. Je suis née à la fin de la guerre, la Seconde Guerre mondiale, et j'ai été à l'école française parce que mes parents étaient juifs et qu'ils cherchaient une école laïque. Comme ils étaient grecs, l'école grecque était une école religieuse et plutôt nazie. Donc ils m'ont mis au lycée français qui était une école laïque, obligatoire, enfin tout ce qu'on sait, quoi. Et il y a eu ensuite les événements du canal de Suez, avec Nasser et tout ça, où on jetait les Juifs à la mer, les Français aussi, et les Anglais aussi, puisque l'Égypte était un dominion franco-anglais. Et donc, comme j'avais été à l'école française, on m'a envoyée à Paris, dans une école en internat. J'avais 13 ans. Donc voilà, ça a été très très traumatique pour moi, cette arrivée en France. Il a fallu quitter son pays, sa langue, sa religion... sa nourriture, le soleil, tout était différent. Et j'ai beaucoup pleuré cette année-là, il faut dire. Psychologiquement, j'étais très très mal en point, quoi. Au bout d'un an, de me dire, bon, maintenant ça suffit, t'as assez pleuré sur ton sort. Il va falloir que tu t'intègres. Donc là, j'ai commencé à manger, j'ai commencé à dormir la nuit, à avoir des copains, essayer de perdre mon accent égyptien, à parler français correctement, enfin voilà, quoi. Jusqu'en terminale, ça allait, je passais de classe, comme ça. Et puis en terminale, j'ai passé un premier bac. Il y avait deux bacs à l'époque. Alors la première partie, j'avais passé un bac scientifique. Et le prof de maths que j'avais m'avait dit, vous savez, vous n'êtes pas assez bonne pour aller en maths LM. Quand elle m'a dit ça, je me suis dit, bon, je vais aller en philo, ce qui était une grosse erreur. Et j'avais été dans une école où... c'était pour les enfants dont les parents étaient décédés, en fait. C'était pas l'assistance publique, mais presque, ça y ressemblait. Il fallait que j'aille au lycée après, ça se terminait en première. Et on m'a mis au lycée Fénelon, parce que je faisais de l'italien comme première langue. C'était vraiment un lycée pour la classe aisée, et moi j'étais pas de cette classe-là. Je sentais bien que j'étais pas du même milieu. Moi j'avais pas de cours particulier, il fallait que je me débrouille... J'avais pas de parents qui me faisaient faire des beaux voyages, j'avais rien de tout ça. Donc vraiment, j'étais très inadaptée socialement, quoi. Et là, je me suis écroulée, j'ai eu 2 au bac. Ça, c'est irrécupérable. Et je me suis dit, mais c'est injuste, pourquoi j'ai pas ce bac? J'ai donc été voir le proviseur et c'était Henri IV, le lycée en question, où j'avais passé le bac. Je suis arrivée avec des yeux comme ça parce que j'avais pleuré toutes les larmes de mon corps avant d'y aller. Alors je lui dis, écoutez monsieur, je viens vous voir parce que je voudrais voir mes copies, je comprends pas pourquoi j'ai autant raté cet examen. Il s'est mis à rire, à se moquer de moi, l'air de dire, mais ma pauvre fille, qu'est-ce que tu crois? Tu crois que tu vas avoir ton bac? J'ai eu l'impression que j'étais devant un mur, quoi, qui non seulement n'écoutait pas ce que j'avais à lui dire, mais en plus qui me méprisait, quoi. Cette scène-là m'a marquée, je revois ses yeux bleus, enfin comme s'il était là 50 ans après, quoi. Il n'y avait pas d'autre solution que de redoubler ou alors être orienté vers autre chose, mais j'avais envie d'avoir le bac quand même. Mais je ne me voyais plus redoubler dans ces conditions-là, dans ce contexte-là. C'était trop pour moi. Et du coup, j'ai été éducatrice d'enfants inadaptés et en même temps, j'ai repassé le bac. Je l'ai eu de justesse, hein, c'était pas haut la main. Hein. Donc, puis j'ai eu mon CAP en 68, mon CAP d'institut. Alors ça aussi, c'est encore un truc, je l'ai eu de justesse, là aussi. Mais bon, je l'ai eu quand même. Et en fait, j'ai été tellement maltraitée par le jury que j'avais ce jour-là. Il y avait une directrice d'école normale, il y avait un inspecteur, une conseillère pédagogique, tout un staff là. Et ils m'ont descendue. Enfin voilà, j'avais trouvé ça très 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 pénible, cette épreuve. Quand j'ai été instite, je me suis dit, je ne vais pas reproduire ça. Ça, c'est insupportable pour moi. Je ne vais pas faire souffrir des enfants comme ça. En plus, on m'avait nommée à l'assistance publique. J'avais un cours préparatoire où j'avais 60 gamins dans la classe. Et il fallait leur apprendre à lire, à écrire. Et bon, ils avaient déjà de telles souffrances familiales et tout ça qu'il était hors de question que moi, je me mette à faire ça aussi, quoi.
Est-ce que vous faisiez redoubler les enfants quand vous étiez instite ?
Jamais. J'ai jamais fait redoubler d'enfants quand j'étais instite. Sauf une fois, c'était un enfant qui était suivi à l'hôpital Sainte-Anne, qui avait des problèmes avec les apprentissages, qui n'arrivait pas à apprendre. Et l'hôpital Sainte-Anne a demandé à ce qu'il redouble. Donc j'étais obligée de me soumettre au psychiatre. En fait, ça a servi strictement à rien. Il a été dans une déprime épouvantable. Il a été encore plus mal qu'avant. Et du coup, je me suis dit que j'avais bien raison de ne pas les faire redoubler. Ça m'a vraiment servi de leçon. Donc du coup, je n'ai plus jamais fait redoubler personne. Donc, au bout d'un certain temps, je me suis dit, mais j'en ai marre d'être tout le temps avec des enfants, tout le temps dans ce petit monde. Et du coup, je suis allée à la fac. Alors ça n'a pas été sans mal, là aussi, d'aller à la fac. Parce que mon mari me disait, ne voulait pas, déjà. Et il m'a dit, vas-y, de toute façon, tu ne réussiras pas. Donc j'y suis allée, et non seulement j'ai eu la première année toutes mes UV en juin, comme tout le monde, et j'ai eu des mentions partout, bien ou très bien, en psycho. Et puis bon, alors après, j'ai eu le DEUG, la licence, la maîtrise, tout du premier coup, la première année, sans problème. Et j'ai eu un DESS.
Et pourquoi c'était si important pour vous d'être psychologue scolaire ?
Ça me permettait d'avoir un salaire sans avoir 50 000 heures à faire. Et en plus, comme j'avais été enseignante, que j'avais moi-même tellement souffert à l'école, que c'était une musique que je connaissais, je le vivais comme un moyen d'aider les enfants à mieux vivre l'école. C'était ça pour moi l'idée. Et j'arrivais des fois à des réunions comme ça, pour les passages de classe, où je voyais des enfants qu'on faisait redoubler, pour qui on ne m'avait jamais rien signalé, on ne m'avait jamais rien dit. Et ça a été des heures terribles avec les instits. Je leur disais, mais c'est pas possible, tu le fais redoubler, pourquoi tu le fais redoubler déjà ? Il n'a pas acquis le programme, il faut qu'il acquiert un programme. Et je leur disais, mais tu crois qu'en redoublant, ça va changer quelque chose ? Tu as déjà vu des enfants redoubler ? Quand ils redoublent, ça ne sert à rien. Tu leur fais perdre leurs copains, tu le démoralises, tu le dévalorises aux yeux des parents. Alors il y en a avec qui j'ai réussi à les convaincre. Et il y avait des instits pour qui j'arrivais pas. J'avais beau dire, donner des arguments, rien n'y faisait, quoi. Ils tenaient à leur idée qu'il faut redoubler, quoi. Comme si le redoublement, c'était la panacée universelle. C'est vraiment du gâchis de matière grise, là, parce que c'est des enfants qui auraient pu faire des choses intéressantes, mais on les a tellement bloqués, ils ne s'intéressent plus à l'école, il n'y a plus rien à faire. Il faut vraiment faire autre chose, il faut leur apprendre un métier, il faut trouver une autre façon de faire, mais l'école, ils la vomissent, quoi.
Je m'appelle Sonia, je suis la maman d'un petit garçon de 9 ans qui s'appelle Ethan. Donc voilà, j'ai remarqué assez tôt, on va dire qu'au niveau de la grande section, j'ai remarqué que mon fils avait quand même un certain retard par rapport aux autres enfants. Quand vous jouez au Lego, par exemple, avec votre enfant, et tu lui dis, bah tiens, viens, on fait une pyramide avec les jaunes, donne-moi les cubes jaunes, et qu'il est incapable et qu'il vous donne le rouge, et puis vous dites, bah non, c'est le rouge, ça. Dites, mince, il y a quand même un souci, quoi. il reconnaissait pas l'écriture de son prénom. Donc des petits détails comme ça où vous dites quand même fin grande section, l'année prochaine c'est quand même le CP. Donc ce qui veut dire l'apprentissage de la lecture, de l'écriture. Donc moi je me suis inquiétée, j'avais été voir la maîtresse de l'époque de mon enfant qui m'avait dit que non, c'était moi qui me faisais des soucis puisque mon fils n'avait rien et qu'elle ne s'inquiétait pas du tout pour lui, pour sa rentrée en CP et que tout allait bien se passer. Et la maîtresse de CP m'a convoquée fin septembre, au bout d'un mois d'école, pour me dire « Madame Rossi, votre enfant a bien un problème ». J'ai dit « Merci, je ne suis pas toute seule à l'avoir remarqué ». Donc effectivement, merci, parce que moi aussi, je me posais vraiment des questions, quoi, et je me sentais un peu seule là-dedans. Et donc, bah, c'est là qu'après, grâce à elle, on va dire, j'ai commencé à entamer plusieurs démarches au niveau de différents médecins, beaucoup de rendez-vous. Donc on a dû commencer d'abord par l'ORL aussi, pour voir s'il n'y avait pas des soucis de ce côté-là. L'opticien aussi, s'il n'y avait pas de soucis au niveau des yeux. Le neuropédiatre aussi, il a dû faire un encéphalogramme pour voir si tout allait bien. Bon, vraiment, tout un panel de médecins où je vous avouerai, je ne sais même pas trop maintenant réellement à quoi ils m'ont servi. Sur les bilans, à part me dire que c'était un enfant qui avait besoin de plus de temps, mais sinon c'est tout. Personne me disait réellement, bon ben voilà, ou si on me donnait des conseils. Allez acheter tel livre, prenez telle méthode, allez acheter tel jeu, allez prendre ceci. Donc, ce que vous allez faire, parce que vous essayez de mettre plein de choses en place, mais il n'y avait rien, quoi. Derrière, vous voyez qu'il était toujours aussi perdu et qu'il me regardait toujours désespérément en me disant, mais je veux bien, mais j'y arrive pas, quoi. J'avais l'impression que j'avais loupé quelque chose, quoi. Je me suis dit, mais qu'est-ce que j'ai loupé, quoi? Qu'est-ce que j'ai mal fait? Ben, je l'ai pas assez peut-être stimulé quand il était bébé. Je lui ai peut-être pas donné les bons trucs. Je comprends pas comment ça se fait, quoi. Sachant qu'il a une grande sœur, qui, elle, est vraiment, elle a toujours fait partie des premiers de sa classe. Elle vise toujours le plus haut. Elle le travaille très bien. Je me dis, comment j'ai pu faire une petite fille qui, elle, travaille si bien et un petit garçon qui, lui, a autant de difficultés et... surtout, quoi. Donc j'ai pris rendez-vous avec l'inspecteur académique, j'ai fait tout un dossier pour demander le redoublement de mon enfant. Ça m'a été refusé.
Et il justifie ou pas?
Ah non, je peux vous montrer les courriers si vous voulez, ouais, je les ai. Savez, ouais. Ah ouais, je les ai. Je vous ai sorti le dossier. Celui-ci, c'est le premier, c'est celui du CP. On vous dit, voilà, par courrier du 20 mai 2015, vous interjetez appel à l'encontre de la décision passage en classe de CEA, prononcée par le conseil des maîtres de cycle de l'école primaire de Vieille Maison. Je vous informe que la commission départementale d'appel compétente, régulièrement réunie le 3 juin 2015, confirme la détermination initiale de passage en classe de CE1 de votre fils Ethan. Voilà. Je vous précise que la résolution, la commission, voilà, vaut une décision définitive. Donc je ne peux même plus faire appel. Voilà. Bah je reprends rendez-vous avec l'inspecteur académique pour lui demander, puisque quand je l'avais vu dans son bureau, il était quand même d'accord avec la décision du redoublement. Il me dit, moi, quand je vois la situation de votre fils et le dossier, effectivement, c'est un enfant qui aurait besoin d'un redoublement. Donc quand j'ai été avec ce courrier le revoir, il me dit, je sais bien, mais il me dit, on a cette circulaire qui dit que les redoublements de primaire sont interdits. Donc ils ne peuvent pas, quoi qu'il en soit, à part pour les enfants qui auraient des maladies et qui devraient s'absenter régulièrement de l'école. Sinon, les redoublements sont interdits. En fait, CE1, j'ai réussi à lui avoir une AVS.
Donc une assistante de vie scolaire.
C'est ça. Donc tous les matins, il avait quelqu'un pour l'aider en classe. Donc déjà, ça allait déjà un peu mieux puisque ça soulageait un peu les maîtresses par rapport à lui. Donc ça allait.
Donc arrive à nouveau la fin du CE1. Et là, qu'est-ce qui se passe?
Il passe en CE2. Voilà, je refais le même papier et j'ai exactement le même papier qui me maintient le passage de mon fils en CE2. Le même train-train, les médecins, l'AVS, voilà, une très bonne maîtresse, mais toujours au même point. Voilà, en maths, très bien, mais alors en français, rien. Il voyait bien qu'il n'arrivait pas, quoi. Donc des fois, il rentrait, il me disait « Maman, j'en ai assez d'Alexandra, elle me crie dessus, parce que c'est son AVS Alexandra, il me disait, parce qu'elle me crie dessus, elle me dit à bout d'un moment, mais il me dit, mais si je fais pas exprès, je comprends pas. » Il me dit, je fais pas exprès, mais il me dit, elle me crie dessus. Ben, je lui dis, oui chérie, mais je peux comprendre aussi des fois que quand t'as répété 10 fois la même consigne et que t'as pas compris, je peux comprendre qu'à un moment donné, t'osses le ton, quoi. Ben, il me dit, oui, mais je fais pas exprès, maman. Donc, elle me dit, après, elle me crie, puis dès qu'on lui crie dessus, mon fils, il se referme comme une tortue, et là, c'est fini. Là, vous en obtenez plus rien du tout. De toute façon, il me dit, je comprends pas, je suis bête. Hein. Je dis, non, c'est pas vrai, t'es pas bête. C'est pas vrai. Je dis, t'as juste besoin qu'on t'explique différemment. C'est tout. Je dis, on n'a pas encore trouvé la méthode pour t'expliquer différemment, mais on va la trouver. C'est pas désespéré, t'inquiète pas. Voilà.
Est-ce que vous vous êtes posé la question, sincèrement?
Est-ce qu'il était bête? Oui. Oui, je me suis demandé. C'est aussi pour ça que j'ai fait tous ces examens médicaux et que j'étais voir autant de médecins. C'était pour être sûr qu'il n'y ait pas un souci. Et quoique dans un autre sens, j'aurais bien aimé qu'il y ait un souci. Au moins, il y aurait eu quelque chose et il y aurait eu une sorte d'excuse en disant « Oui, il est comme ça, mais parce qu'il a ça. » Alors aujourd'hui, aller dire aux gens « Oui, il est comme ça. » Juste parce qu'il a besoin d'un peu plus de temps que les autres et que... Voilà, c'est comme ça. Il y a des enfants qui ont besoin de plus de temps. Parce qu'il est un peu feignant. Ça passe moins bien. Les gens vont regarder et dire « Ah, ah, bah oui, ah, voilà. »
Donc arrive à nouveau la fin de CE2.
Toujours pareil, hein, les mêmes rendez-vous avec la directrice, l'inspecteur d'académie. Donc on me propose la classe Ulysse. Donc les établissements Ulysse, ce sont des classes adaptées pour les enfants qui ont des grosses difficultés scolaires. Donc ils se retrouvent dans une petite classe avec peu d'élèves, ils sont 8, mais de niveaux différents. Donc là, il y a une maîtresse spécialisée qui s'occupe d'eux et qui leur fait travailler différentes méthodes par rapport à chaque difficulté de l'enfant. Grâce au fait que j'ai accepté le fait de le mettre en classe Ulysse, j'ai réussi à avoir le redoublement pour mon fils. Donc cette année, il est resté en CE2. Il a maintenu sa classe, quoi. Il a une certaine fierté, maintenant. Quand il rentre de l'école, il dit à maman, j'ai réussi à lire. Voilà. Bah, c'est pas des choses miraculeuses non plus par rapport à l'âge qu'il a, mais c'est énorme depuis septembre, on va dire, le progrès qu'il y a en 4 mois que je n'ai pas eu en 3 ans, quoi. Donc, je trouve ça génial, quoi. C'est une grande fierté de le voir lire des petits textes, des petites phrases. Voilà, même si ça reste encore compliqué et qu'il bute encore un peu dessus, mais c'est quand même un vrai plaisir, quoi. Aussi, dès le démarrage, quand en grande section, je me suis inquiétée et je me dis si la maîtresse s'était dit elle aussi, bah, elle a peut-être pas tort, c'est vrai, les couleurs à son âge, c'est peut-être un souci. Et valait peut-être mieux refaire une grande section qui paraît anodin. C'est quoi une grande section? C'est rien du tout. Ils sont petits, personne ne s'aperçoit. Aujourd'hui, il a tellement de retard que c'est compliqué de récupérer tout ça. Récupérer 3 ans de retard en une année, c'est impossible. Il va devoir continuer à avancer sans qu'on lui laisse le temps.
Si je plonge dans tes yeux, c'est pour pêcher celui que tu deviendras quand demain nous serons éloignés, quand demain nous ne nous connaîtrons pas. Mon camarade, ces années à vivre ensemble, ces années comme des pères.
Aujourd'hui encore, c'était Les Pieds sur Terre avec Les Redoublants, un reportage de Karine Lelouette réalisé par Clémence Gross. Merci à Julien, à Rebecca Duvillier, à Sonia Rossi, à Ulquié Pistoff et à Marine Van Amme Vinck, ainsi qu'à Jean Guilin. Mais l'attachée de production, c'est Sandrine Chaperon, et notre stagiaire, heureusement, c'est Céline Autain.
J'en aurai besoin pour mes hivers déjà. Je garde des mots.